Ce matin, on attaque une nouvelle thématique sur être membre de l'église locale. On va parler durant tout ce mois d'octobre et de novembre de l'attachement, de l'appartenance et de l'engagement envers l'église locale. Alors, pourquoi cette série? Ben, vous voyez, comme moi, on vit à l'heure du streaming musical, du streaming vidéo, on fait nos courses au drive, on a toutes sortes de choses qu'on fait d'un clic et à la carte. Et nous vivons au sein d'une génération de consommateurs qui veulent privilégier de tous les avantages de ce qui se passe, mais sans avoir de contraintes. Ayant besoin de me remettre au sport, cette semaine, j'étais prendre un abonnement à la salle de sport qui vient d'ouvrir au bout de la rue. Et vous savez que pour 9 euros de plus, vous pouvez bénéficier de l'option flex. L'option flex, qu'est-ce que c'est? Ça me permet de me désengager quand je veux. À la différence de mon abonnement classique à moi où je suis obligé d'y aller pendant un an. Et ça décrit notre génération. Cette mentalité de consommation affecte également l'église locale. On peut parfois confondre église locale et club où je viens quand je le souhaite en fonction de mes envies à la carte. On veut des programmes adaptés à nos besoins et on considère que les autres choses peut-être proposées ne nous concernent pas. Le culte, oui, quand j'ai le temps, mais alors les groupes de maison, les groupes de vie la semaine, non merci. Le but de cette série va être de nous rappeler qu'il n'y a pas d'église avec option flex. Comme le rappelle Gaëtan Brassard, un de mes professeurs en théologie au Canada, il dit la chose suivante, l'église n'est pas un endroit où je viens chercher des services religieux à bas prix sans m'engager. L'église, c'est pas un buffet chinois à volonté. Elle est là pour nourrir correctement le disciple en vue de son développement. Qui croit ici que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui croient en la parole de Dieu? Il y a quelques-uns, il y en a encore qui sont un peu, ils se posent la question. Donc il y en a plusieurs ici. Eh bien, on va voir que la Bible, elle parle d'église locale et elle va à l'encontre de cette mentalité qui nous affecte. Alors je le dis tout de suite, cette série ne va pas être un yaka faucon. Elle ne dit pas non plus qu'il faut retomber dans la réunionnite. Vous savez, les chrétiens n'ont pas été sauvés pour chauffer des chaises en plastique. Enfin, ici, elles sont en bois. On n'a pas été créés pour chauffer des chaises 7 jours sur 7. Néanmoins, nous avons été sauvés pour nous réunir, pour être ensemble, pour refléter ensemble et manifester le royaume de Dieu. On va faire la lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 24 à 25, où l'auteur nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Qu'est-ce que les chrétiens du 21e siècle aiment ce passage? J'ai entendu plein de « Amen » ce matin, après la lecture. Vous savez, il y a certains passages où les pasteurs tremblent de devoir les prêcher parce qu'ils connaissent la réaction des chrétiens qui ne vont pas manquer de critiquer le message dans le couloir juste après le culte. Mais en tant que pasteurs, nous ne sommes pas appelés à prêcher des choses populaires, mais appelés à prêcher des choses nécessaires. La prédication de l'évangile n'a pas pour but de confirmer et de conforter ce que je crois savoir, mais elle est là afin de me conformer à la vérité de la parole de Dieu. Merci pour le Amen. Ce passage, il fait grincer des dents parce qu'il nous dit qu'en tant que chrétiens, nous avons des droits, mais nous avons également des devoirs. Et un de ces devoirs est celui de la redevabilité. C'est mon premier point, nous avons un devoir de redevabilité. Notre texte commence en nous encourageant à veiller les uns sur les autres. Le contexte de ce passage, c'est le suivant. La persécution faisait rage au sein de l'Église et plusieurs membres de la communauté des Hébreux étaient en danger de perdre leur amour pour Christ. En effet, ils souhaitaient tourner le dos au christianisme pour retourner dans les rituels du judaïsme afin d'éviter la persécution. Les disciples de Jésus étaient invités à veiller les uns sur les autres, à exercer une surveillance afin que personne ne tombe dans le rejet de la foi. Le verset 23 qui précède notre passage est une invitation à garder cette foi. Et l'auteur nous dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » L'espérance du chrétien est dans l'œuvre accomplie par Jésus à la croix qui sauve de leurs erreurs, de leurs fautes et de leurs péchés tous ceux qui placent leur confiance dans son sacrifice. Ce message de la grâce de Dieu, nous avons besoin de nous le rappeler mutuellement. Je sais pas, vous comme moi, mais on retombe vite dans le religieux des « il faut faire, il faut con, et puis il faut que je passe pour, et puis etc. » Nous sommes appelés à nous rappeler mutuellement que l'amour de Dieu, c'est sa grâce et qu'il nous sauve par grâce et qu'il n'y a rien à faire parce que Jésus a tout accompli à la croix. Mais nous avons besoin de nous encourager dans ces choses. Le passage nous invite à nous inciter, à nous stimuler à l'amour et aux œuvres bonnes. Andrew Murray, théologien sud-africain qui est décédé au siècle dernier, il commentait ce passage en disant « Prenez le temps nécessaire pour considérer les besoins de vos frères, leurs difficultés, leurs tentations, leurs circonstances défavorables. Nous sommes là pour exercer nos dons afin d'accompagner, afin d'aider ceux qui sont autour de nous. Mais comment considérer ce que nos frères et sœurs peuvent vivre ? Comment considérer ce qu'ils peuvent vivre au quotidien si nous ne passons pas de temps avec eux ? Si nous ne sommes pas engagés envers eux. Je remercie le frère pour son témoignage où il a dit qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé pendant 15 ans pour lui permettre aujourd'hui d'être à la place que Dieu l'appelait à être. Des gens se sont engagés pour lui. Une dame s'est engagée pour lui. Nous avons besoin de nous rassembler, d'être ensemble. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se déclarent disciples de Jésus mais sans être attaché à une église. Il papillonne d'église en église, disant faire partie de la grande église universelle, mais ne voulant pas être redevable envers quelqu'un ou envers une communauté. Laissez-moi vous dire ce matin avec amour et respect, mais des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de conseils, qu'ils n'ont pas besoin d'être redevables envers quelqu'un ou envers une église, qu'ils n'ont pas besoin d'être enseignés ou repris, quelqu'un qui se croit autosuffisant n'est pas animé par les valeurs du royaume de Dieu, mais par Satan. C'est lui qui s'est cru autosuffisant, qu'il n'avait pas besoin de Dieu. C'est lui qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il est le prince de l'orgueil. L'orgueil cherche à nous faire croire que nous comprenons tout, que nous savons mieux que tout le monde. Et on sait mieux ce qui est bon ou mauvais pour nos propres vies. L'orgueil nous fait croire que nous pouvons être les maîtres de nos vies, finalement d'être les petits dieux de nos vies. C'est par ce genre de croyance que le péché est entré dans le monde. 1 Corinthiens 10:12 nous dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Un chrétien seul est un chrétien en danger. Choisir le père et le fils, c'est choisir la famille. C'est choisir l'église locale. L'église, elle a un rôle de contrôle sur la profession de foi. Notre texte nous dit que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Cela veut dire que l'église peut déclarer si l'attitude et les actions des uns et des autres correspondent à la foi qu'ils proclament par leur bouche. Ce n'est qu'en participant à la vie communautaire que je peux me soumettre à la famille de Dieu. Si je suis tout seul, qui peut m'avertir que je suis en train de faire fausse route ? Vous savez, nous pourrions comparer l'église locale à une ambassade ou à un avant-poste du royaume de Dieu. L'apôtre Paul dira en 2 Corinthiens 5:20 que nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. L'appel de la grâce de Dieu est lancé et communiqué par l'Église. Une ambassade est définie par le Larousse comme une représentation diplomatique permanente d'un État auprès d'un autre État étranger. L'Église locale est une ambassade qui représente le royaume de Christ et son autorité au sein de ce monde régi par Satan. Avec mon épouse, on était en vacances pendant une semaine, la semaine dernière, en Turquie. Et en tant que citoyen français, si j'avais perdu ma carte d'identité, j'aurais pas pu me présenter devant le policier à l'aéroport en disant « J'ai perdu ma carte, mais monsieur, je suis français. Donc laissez-moi partir. Je n'ai pas l'autorité de déclarer par moi-même que je suis français. » Si j'avais perdu ma pièce d'identité, j'étais obligé d'aller à l'ambassade de France en Turquie, qui après vérification aurait dit « Cet homme est citoyen français. » M'aurait donné un document et j'aurais pu reprendre l'avion. L'église locale, c'est exactement la même chose. L'église ne fait pas de moi un chrétien, c'est Jésus-Christ qui le fait. Mais elle atteste que je suis chrétien, elle le reconnaît publiquement et officiellement. Jonathan Lehman a écrit un livre excellent sur qu'est-ce que c'est être membre d'une église locale. Et il dit la chose suivante, l'autorité de l'église locale, comparable à celle d'une ambassade, offre aux personnes qui déclarent « je suis un disciple de Jésus » l'occasion de démontrer que ces mots signifient vraiment quelque chose. L'église locale détient l'autorité céleste pour déclarer qui est citoyen du royaume et par conséquent, qui représente par sa vie Dieu sur terre. Alors, comment l'église vérifie-t-elle ça? Mais par l'amour manifesté et vécu et les œuvres qui en découlent. Jésus dira que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous serons reconnus en tant que disciples. Je le dis souvent, mais dans la Bible, le mot « amour » est toujours un verbe d'action et non une émotion. Nous ne pouvons pas nous illusionner d'aimer notre famille chrétienne si nous n'agissons pas concrètement. L'amour, ce n'est pas juste de dire « mais moi j'aime les chrétiens à l'autre bout du monde que je ne connais pas », mais c'est aimer concrètement le chrétien à côté de moi que je connais parfaitement, avec ses bons moments et aussi ses mauvais moments. Les proverbes disent que le faire aiguise le fer. Vous savez, c'est en s'aimant, mais aussi en se frottant les uns aux autres, que nos angles se polissent et qu'on apprend à fonctionner ensemble. Mais pour cela, ça prend un effort, ça prend une décision, ça prend la décision de la communion, d'être ensemble réunis. Jonathan Lehman dira encore, une église locale est une ambassade réelle, établie dans le présent, qui représente le futur royaume de Christ et son église universelle à venir. Dans notre Père, on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On est en train de dire, Seigneur, que ma vie, que dans ma vie, il se passe ce qui se passe au ciel. Nous sommes appelés à être des représentants du royaume à venir, de manifester par nos vies ce qui se passe dans le ciel. Et ça passe par l'obéissance. Ça passe par l'obéissance. Jacques rappelle dans son épître que la foi sans les œuvres est morte. Voilà pourquoi les chrétiens n'adhèrent pas à l'Église comme dans un club, mais les chrétiens se soumettent à l'Église. Deuxième gros mot de la matinée, soumission. Oh là là, qu'est-ce que le pasteur a dit ce matin? Comme on le disait, vous savez, on est orgueilleux par nature. Notre nature, elle est corrompue par le péché. Et on n'aime pas devoir rendre des comptes à quelqu'un. On aime notre indépendance. Pourtant, la Bible nous parle de soumission à l'autorité. En tant que disciples de Jésus, nous sommes sous son autorité, mais Dieu a décidé de déléguer son autorité à deux entités. La première, c'est l'État. 1 Pierre 2, 13 à 14 nous dit « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tout, de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. » Tu ne peux pas dire ce matin, parce que je suis un citoyen du royaume de Dieu, je ne vais pas respecter le code de la route. Le code de la route a été mis en place pour ton bien. Vous savez que le code de la route est censé faire qu'il n'y a pas d'accident. Si tout le monde respectait le code de la route, il n'y aurait pas d'accident. Donc les règles qui sont mises en place ne sont pas là pour nous empêcher, pour nous freiner, mais elles sont au contraire là pour notre bien. Nous devons donc être soumis à l'État, sauf dans ce qui est contraire à la parole de Dieu et qui n'est pas sous son autorité absolue. La seconde autorité que Dieu donne, c'est l'Église et ses conducteurs. Hébreux 13, 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Dieu a placé des conducteurs spirituels sur l'Église pour veiller au bien du peuple de Dieu, pour pouvoir les enseigner afin qu'ils puissent grandir et s'épanouir dans leur vie spirituelle. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a plusieurs classes de chrétiens et ou que les pasteurs et les anciens seraient de meilleurs chrétiens? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais comme notre corps est composé de plusieurs membres, c'est la même chose pour l'Église. Nous avons des fonctions différentes. Celui des pasteurs et des responsables étant celle de gouverner, d'administrer, de faire fonctionner l'Église locale et d'enseigner le peuple au travers de la parole de Dieu. De la même manière que les disciples de Jésus sont sous l'autorité de l'Église, il en est de même pour nous les responsables. C'est également l'Église et chacun d'entre vous, chacun de ses membres, qui confirme la citoyenneté du royaume de Dieu, de ses dirigeants, en regardant s'ils sont fidèles à la parole de Dieu. À l'EPI, le travail de l'équipe pastorale est sous le contrôle du collège d'anciens, qui s'assure que nous restions fidèles aux Écritures. De même, tout disciple de Jésus est en droit de demander des comptes à un pasteur ou à un responsable qui se serait discrédité. 1 Timothée 5,19 nous dit « N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » On voit qu'il est question, lorsqu'il y a un souci, de pouvoir lancer une accusation, dire « il y a un problème ». Par contre, on voit aussi la sagesse de Dieu dans ce passage. Les responsables étant des personnages publics, Dieu les protège d'attaques pouvant être faites par des personnes jalouses ou mal intentionnées. C'est pour ça qu'il demande le témoignage de plusieurs personnes et pas juste un témoignage. Parce que vous savez, dans l'Église, il y a aussi des gens jaloux. Et ils vont vouloir semer le poison pour faire du mal, pour prendre la place, parce que c'est la nature de l'homme, on est corrompu et pourri jusqu'à l'intérieur. Donc Dieu a mis en place des règles justement pour protéger. Alors on reviendra tout à l'heure par contre sur cette notion de quoi faire lorsque nous sommes dans une église toxique. Mais pour résumer, nous sommes tous appelés, tous, à être sous l'autorité de notre église locale. Jonathan Lehman dira « Selon la Bible, le gouvernement de votre pays est l'autorité suprême sur terre en ce qui a trait à votre citoyenneté. De même, l'église locale est la plus haute autorité sur terre à l'égard des disciples de Christ et de votre citoyenneté actuelle et future en Christ. » Il dira encore « On ne peut s'acquitter de ses obligations envers les autres chrétiens et les dirigeants spirituels en l'absence de l'église locale, du moins pas comme la Bible nous appelle à le faire. Si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, alors nous prenons toute la Bible comme étant la parole de Dieu. » L'auteur de l'Épître souligne ensuite qu'il ne faut pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Deuxième point, nous avons un devoir de fidélité. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le terme grec employé ici pour assemblée, c'est episynagogé, qui nous parle d'être assemblé dans un lieu de réunion ou l'assemblée religieuse de chrétiens. Ces paroles, elles constituent un appel général destiné à tous les chrétiens afin qu'ils participent avec fidélité à leur église locale. Pourquoi ? Parce qu'au sein de l'église locale, nous trouvons force, réconfort, nourriture spirituelle lorsque nous servons Dieu ensemble. Ici, il n'est pas question de dire « je vais à l'église tous les dimanches pour que Dieu soit content ». Si c'est ça ta motivation, reste à la maison. Mais c'est de dire que j'ai besoin d'aller entendre la parole de Dieu, j'ai besoin d'être encouragé par un frère, une sœur, je suis peut-être appelé par Dieu pour communiquer une parole qui va encourager, qui va fortifier celui ou celle qui en a besoin. Nous ne sommes pas venus juste pour chauffer des chaises, mais pour nous encourager ensemble, pour travailler ensemble et nous encourager à la foi en Jésus-Christ. Andrew Murray dira « Tous les rachetés forment un corps dont les membres sont tous solidaires. Ce serait nous bercer d'une grave illusion que de nous imaginer pouvoir profiter égoïstement de la communion de Dieu. » J'aime comment la Bible Summer traduit ce passage. Elle dit « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. » Se retrouver à l'église n'est pas une option parmi tant d'autres. Nous sommes encouragés à y participer activement. Quand l'église passe après nos activités, c'est que Jésus n'est pas la priorité. Alors je vais m'expliquer. Je ne parle pas ici des gens qui travaillent le dimanche. Je ne parle pas des mamans qui ont des bébés en bas âge ou des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. Je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas partir en vacances ou en week-end. On en a besoin, ça fait partie de notre équilibre. Je ne parle pas également des gens qui ont peut-être qui sont mariés ou qui sont avec quelqu'un d'inconverti et pour qui ça pose problème ou je suis obligé d'un petit peu d'adapter pour pas que ça cause du trouble dans le couple. Ce qui est mentionné ici, c'est que la Bible... Pardon, je suis allé trop loin. Je parle plutôt ici de moments où j'ai le choix d'aller célébrer Jésus, d'aller encourager mes frères et sœurs, mais que je trouve mieux à faire. Si mes loisirs passent avant l'Église de manière habituelle, c'est que j'ai un problème spirituel. Notre passage est très clair. Il parle du danger spirituel à quitter et abandonner l'assemblée. Regardez comment le verset met deux choses en lien. Il met en lien le fait de quitter l'assemblée et il l'associe avec le jour du Seigneur. Est-ce que vous savez ce que c'est le jour du Seigneur ? Le jour de l'Éternel dans la Bible. Le jour de l'Éternel dans la Bible, c'est un jour de jugement. Ce qui est mentionné ici, c'est que la Bible annonce comme le jour de l'Éternel, le jour du jugement, où Dieu va juger ceux qui ne lui appartiennent pas. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Faites attention de ne pas abandonner votre assemblée, parce qu'il y a le jour du jugement qui va arriver. » Alors, vous savez, on peut dire « Oui, mais notre Dieu est un Dieu de grâce. » Je le dis souvent, la grâce exclut le mérite, elle n'exclut pas l'effort. On a besoin de nous maintenir dans cette grâce, de nous encourager dans cette grâce. Alors vous savez, il y a deux façons d'écouter ce message ce matin. Soit je me dis, j'écoute ce qu'il dit pour voir si ça confirme ce que je pense, ou alors je laisse le texte me parler et me travailler. Vous savez, il me travaille autant moi que vous. On le dit souvent avec les anciens, mais quand on prêche, c'est d'abord à nous que Dieu parle. Est-ce que l'évangile est toujours ma priorité ? C'est pas parce que je suis pasteur rémunéré à temps plein que j'ai pas besoin de me soumettre à la parole de Dieu qui me dit « Est-ce que je suis toujours la flamme qui brûle dans ton cœur ? Est-ce que je suis toujours ce feu qui brûle en toi ?» On a tous besoin de s'examiner à la lumière de la parole. On ne doit pas prendre la parole et y chercher ce qu'on pense. On a besoin de laisser la parole me dire comment je dois penser. On a besoin de se laisser façonner par elle. À mesure que nous nous rapprochons du retour de Christ, le combat spirituel et les persécutions deviennent de plus en plus intenses. Ne pas faire de Christ notre priorité démontre que nous n'appartenons pas à son royaume et qu'il n'est pas notre Seigneur. Je le répète souvent, mais le Seigneur, c'est celui qui dirige et qui gouverne. On l'a chanté ce matin, Jésus notre Seigneur. Mais est-ce qu'il est vraiment celui qui règne sur ma vie ? Vous savez, lorsque je préfère faire autre chose que de venir adorer Jésus et communier avec ma famille spirituelle, je demande que celui qui est aux commandes de ma vie, ce n'est pas Dieu, mais c'est moi. Aimer Jésus, c'est lui obéir et se conformer à sa parole. Jésus rappellera que nous sommes ses amis, si quoi ? Si nous faisons ce qu'il nous commande. C'est du Nouveau Testament, ce n'est pas de l'Ancien, les amis. Ceci étant dit, plusieurs ont de bonnes raisons de quitter leur église locale. Certaines églises, certaines assemblées. Plusieurs, peut-être parmi nous ce matin, ont pu expérimenter des dérapages de la part de dirigeants d'églises peu scrupuleux. Peut-être des gens ont été manipulés par certains pasteurs. Cela est regrettable, cela est destructeur. Et en tant qu'église de l'Épi, on vous demande pardon si l'église vous a fait du mal. Parce que ça salit notre Dieu. Ça salit Jésus, qui a tout donné par amour pour nous, qui a fait passer nos intérêts avant les siens. Voici quelques critères pour reconnaître un leadership abusif et qui doit nous encourager à fuir de telles églises. Par exemple, un leadership abusif transforme en dogme des sujets sur lesquels la Bible est silencieuse. C'est l'Écriture seule qui doit être l'étalon de ce que nous croyons. On voit dans les Actes 17 que les Juifs de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne était exact. Le leadership abusif va compter sur l'intelligence, l'humour, le charme, la culpabilité, les émotions ou les menaces, plutôt que sur la parole de Dieu et sur la prière. Le leadership abusif peut faire preuve de favoritisme. On l'avait vu dans un précédent message. Mais si je ne suis pas obligé d'avoir le même niveau d'affinité avec tous, j'ai le devoir en tant que chrétien d'aimer chacun Et cela se traduit par être juste envers tout le monde et juste avec chacun de la même façon. Un leadership abusif peut tomber aussi dans des accès de colère lorsque les gens ne sont pas d'accord avec lui. Il peut recommander des façons de procéder qui permettent toujours, d'une manière ou d'une autre, d'améliorer sa propre condition au détriment des autres. Dans les milieux charismatiques notamment, pentecôtistes et charismatiques, on a beaucoup de « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré ». Attention au « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré » quand c'est pour se gaver. Il faut être prudent. Vous savez, utiliser le nom de Dieu pour faire nos propres plans, chercher à s'enrichir, c'est dangereux et c'est trahir les 10 commandements. Tu n'emploieras pas le nom de Seigneur ton Dieu en vain. Et on peut manipuler les gens en utilisant le nom de Dieu. Faites attention au « Dieu m'a dit » et au « Dieu m'a parlé ». Surtout quand c'est pour justifier des choses. Ils encouragent rarement les autres. Ils accordent rarement le bénéfice du doute à autrui. Vous savez, on soupçonne le mal. La Bible, elle nous dit « ne soupçonnez pas le mal ». Mais souvent, ils vont prêter des intentions aux gens sans même vérifier son fondement. Ils vont utiliser des textes hors contexte pour en faire des prétextes, pour justifier ce qu'ils pensent. Ils vont mettre l'accent sur une conformité extérieure plutôt que sur un changement intérieur. Un bon chrétien, il s'habille comme ça, il mange ça, il boit pas ça, il fume pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais elle nous donne quelques éléments de réflexion pour des gens qui sont abusés spirituellement. Voici comment l'autorité doit s'exercer dans l'Église. Matthieu 20, 25 et 27, Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » Jésus affirme que l'autorité chrétienne se fait par le don de sa vie envers son prochain, comme lui l'a fait pour nous. Cela se fait par la douceur transformatrice et la puissance de la parole et du Saint-Esprit, non par la force et la contrainte. Alors comment devenir membre de l'Église? Acte 2, 41-42, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutées environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et acte 2, 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour être membre, il faut croire, il faut placer sa foi dans l'œuvre accomplie par Jésus qui est mort à la croix à cause de nos fautes, à cause de nos cœurs corrompus. Et il est ressuscité pour faire de nous un peuple, un corps composé de membres différents qui lui appartiennent et qui sont sauvés par pure grâce. On a eu le privilège, je vous l'ai dit, d'être en Turquie et avec Anne-Laure, on a pu visiter la ville antique d'Éphèse. Et je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à ce passage aux Éphésiens où Paul nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Par pure grâce, nous sommes sauvés. Ensuite, il fait demi-tour. Celui qui veut être membre, qui veut appartenir à l'Église, fait demi-tour par rapport à sa vie passée. C'est ce qu'on appelle la repentance. Il reconnaît ses torts, il reconnaît ses erreurs. Et la repentance, ce n'est pas une fois dans notre vie, c'est un style de vie. On a besoin d'appliquer la grâce de Dieu sur les différents aspects de nos vies jusqu'au retour de Jésus. Alors est-ce que cela signifie que les membres sont des gens parfaits et sans péché? Non. Regardez ce que dira encore Jonathan Lehman, ce n'est pas la perfection morale d'une personne qui la qualifie pour qu'elle devienne membre d'une église, au contraire. C'est sa prise de conscience de son manque de perfection morale alliée à sa soif de justice. Ce ne sont pas les gens qui ne pêchent pas, mais ceux qui luttent contre le péché. Est-ce qu'il y a des gens qui luttent contre le péché ici? Regardez, je lève ma main bien haut. Moi aussi. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Matthieu 5, 3 nous dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. » L'évangile, l'église, c'est pas pour les gens sûrs d'eux-mêmes, c'est pour ceux qui disent « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce sur ma vie. » Ensuite, le croyant se fait baptiser. Le baptême ne sauve personne, mais Jésus veut que les gens sauvés s'identifient publiquement avec lui et son peuple. C'est un des éléments de l'officialisation de notre citoyenneté au royaume de Christ. Romains 6,4 nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Je vais appeler l'équipe de louanges à s'approcher. Le baptême est un acte d'obéissance administré par l'Église locale. Je ne crois pas que nous puissions nous faire baptiser à la sauvette dans une baignoire. Je dis ça parce que ça existe. Il y a tout un courant de gens qui ne veulent plus de l'Église, qui rejettent en fait tout ce que l'Écriture dit par rapport à l'Église locale et qui font des baptêmes sauvages. Je ne dis pas que la foi des gens n'est pas sincère, je dis que ce n'est pas comme ça que le Nouveau Testament nous enseigne. Le baptême est un engagement public. Un engagement public. De dire je fais partie d'une famille locale à qui je dois des comptes, qui me doit des choses, mais à qui je dois aussi des choses. Quand il est question de former un chrétien à devenir disciple de Christ, l'Église locale est la plus haute autorité en la matière sur terre. Foi, repentance, baptême sont les critères pour être membre de l'Église locale qui est un avant-poste du royaume de Dieu. C'est ainsi que Christ ajoute à l'Église son corps des membres qui vont venir s'investir, qui vont venir être acteurs pour que le royaume de Dieu s'étende. Le statut de membre d'Église implique une relation formelle entre une Église et un chrétien, où l'Église atteste de la bonne marche d'un chrétien et veille sur lui, et où le chrétien se soumet à l'Église pour vivre sa vie de disciple sous ses soins. Vous savez, on peut y aller, alors que les temps s'assombrissent sur notre monde, nous avons besoin plus que tout de nous soutenir et de nous encourager les uns les autres à garder la foi, à tenir ferme dans la foi et à tenir ferme sur les promesses de Christ à notre égard, à veiller les uns sur les autres, à nous encourager mutuellement afin de tenir ferme. J'aime cette citation de Bill Hybels qui disait que l'Église locale est l'espoir du monde. Dans le sens où elle est appelée à refléter sur cette terre le royaume céleste de Jésus. Est-ce que ce matin nous désirons faire partie de ce grand projet de Dieu qui désire que nous soyons ensemble, ses mains et ses pieds en action? On va prendre un chant qui va dans ce sens ce matin, mais si c'est votre cœur ce matin en tant qu'Église de dire « Oui, je veux m'engager, je veux faire partie de l'œuvre de Christ pour cette ville », je vous invite simplement à vous mettre debout à votre place en prenant ce chant. Ce sera comme une réponse de dire « Oui Seigneur, je veux répondre, je veux m'engager, je veux être solidaire de ton œuvre ». Je crois que le Seigneur appelle les pies à vivre le plus de Dieu. Oui, on croit qu'il y a un vin nouveau, qu'il y a quelque chose de nouveau dans lequel Dieu veut nous faire entrer, dans lequel Dieu veut nous faire vivre ensemble. Nous ne sommes pas appelés à chauffer des chaises, mais nous sommes appelés à être acteurs de l'œuvre de Dieu qui veut toucher, qui veut communiquer sa grâce sur notre nation, sur notre ville, sur notre pays. Alors qu'on puisse être cette Église qui dit « Oui Seigneur, je veux être de ce peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. » À toi la gloire Jésus. Amen.